Dans la série des chapitres 7 à 9, verset 6, les visions, chapitre 9, versets 1 à 6. Nous avons ici la dernière vision. Amos voit le Seigneur se tenant debout sur l'autel. Note 1. Non pas près de l'autel, comme plusieurs traduisent. Fin de la note. Cette attitude est très remarquable. L'autel de Bethel a été ébranlé, est tombé à terre, chapitre 3, verset 14, de même que jadis, lorsqu'il fut érigé, l'Éternel avait prononcé le jugement contre lui sous Jéroboam, fils de Nébat, 1 roi 13, verset 3. L'autel de l'Éternel reste debout, seul fondement de sécurité, lieu du sacrifice, mais aussi, lorsque le Seigneur a été méprisé et rejeté, lieu d'où partira le jugement. Dieu avait déjà dit « Ils ne se relèveront jamais » chapitre 8, verset 14. Maintenant, ce n'est plus l'annonce, mais l'exécution de la sentence. On ne voit pas ici, comme en Ésaïe 6, le Seigneur assis sur son trône entre les chérubins dans le temple, ni la manifestation de sa gloire qui ne peut supporter le mal ou la souillure, ni le fondement des seuils du temple ébranlé à la voix des séraphins. Cette scène est tout autre. Là, nous voyons la personne du Seigneur de gloire ayant, dans le feu de l'autel, le moyen de purifier son prophète. Ici, c'est la personne du juge. Il n'est pas dans le temple. L'autel seul est en vue. Le Seigneur se tient sur ce qui aurait été pour Israël la base de sa réconciliation, mais est devenu celle de son jugement, car il avait méprisé l'autel de Jérusalem et lui avait préféré ceux de Bethel, de Gilgal, de Dan et de Beer-Sheba. La scène qui se déroule ici n'est pas, avons-nous dit, celle du temple, mais celle de la nuit d'Égypte. Frappe le linteau, afin que les seuils soient ébranlés, et brise-leur la tête à tous. Verset 1. Elle correspond aux paroles solennelles des chapitres 5, verset 17, 7, verset 9, 8, verset 2. Au jour de la Pâque, le sang de l'agneau avait été porté sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte. Israël coupable avait négligé de l'y porter et n'avait plus le sang pascal pour détourner le courroux de Dieu. L'ange exterminateur passe, le linteau est frappé, les seuils ébranlés, la maison s'écroule et brise leur tête. Cette image d'Amos parle donc à la fois de la destruction des premiers-nés et du tremblement de terre d'Ozias. Le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est lui qui touche le pays, et ils font. Et tous ceux qui y habitent mèneront deuil, et ils monteront tout entiers comme le Nil, et il s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés et qui a fondé sa voûte sur la terre, qui appelle les eaux de la mer et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Versets 5 et 6. Voyez chapitre 5, verset 8 et 9, verset 5. S'il reste encore quelque âme après cette subversion, la calamité l'atteindra. Quand il pénétrerait jusque dans le Shéol, de là ma main les prendra. Et quand ils monteraient dans les cieux, je les en ferai descendre. Et quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai et de là je les prendrai. Et quand ils seraient cachés de devant mes yeux, au fond de la mer, là je commanderai au serpent et il les mordra. Et quand ils iraient en captivité devant leurs ennemis, là je commanderai à l'épée et elle les tuera. Et je mettrai mes yeux sur eux pour le mal. Et non pour le bien. Versets 2 à 4. Comme cela rappelle le psaume 139. Mais là, l'homme trouve le salut, en faisant l'expérience qu'il ne peut échapper à Dieu. Ici, voulant lui échapper, il rencontre le jugement. Là, Dieu sonde l'homme pour le bien et non pour le mal, et le pécheur trouve que le Seigneur l'a aimé dès le ventre de sa mère. Ici, il le rencontre pour le mal et non pour le bien. Il s'agit en tout ceci des voies gouvernementales de Dieu à l'égard d'Israël et non de son jugement final. Quand ils seront cachés au fond de la mer, au milieu de la confusion des peuples, ils deviendront la proie de Satan. Versets 7 à 15, la providence de Dieu et la restauration finale d'Israël. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, ô fils d'Israël ? Dit l'Éternel. N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte et les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir ? Verset 7. C'est comme si la pensée rejoignait ici celle qui est exprimée dans les deux premiers chapitres du prophète. La providence de Dieu avait fait monter ces nations de Caphtor et de Kir, voir chapitre 1, verset 5, afin qu'elles puissent prospérer en des lieux plus favorables. Dieu en avait agi de même envers Israël en le faisant monter d'Égypte pour l'introduire dans un pays découlant de lait et de miel. Au lieu de reconnaître les soins de l'Éternel en le servant avec crainte, ces peuples, Israël en tête, étaient devenus des royaumes pécheurs. Aussi les yeux de Dieu étaient sur chacun d'entre eux pour le détruire, à bien plus forte raison quand il s'agissait de son ancien peuple. Cependant, il reste un espoir pour Israël. Si l'Éternel est un juge, il est aussi le Dieu des promesses et ne reniera jamais son caractère. Seulement je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je commande et je secourrai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue dans un crible, mais pas un grain ne tombera à terre. Versets 8 et 9. La dispersion du peuple parmi les nations est prédite, ici, et nous l'avons aujourd'hui sous les yeux. Mais c'est lui qui tient le vent dans sa main. La paille peut s'envoler, pas un grain de blé ne tombe en terre. Au moment voulu, Dieu montrera qu'il a gardé tous ses élus et n'en a perdu aucun. Lorsque Satan demanda à avoir les disciples pour les cribler comme le blé, il ne réussit qu'à délivrer Pierre de sa confiance en lui-même. Il en sera ainsi de la tribulation future du peuple de Dieu. Pas un seul d'entre les siens ne périra dans ces jours d'épreuve, où il semblera que nulle chair ne peut être sauvée. Tout autre sera le sort des pécheurs de ce peuple. Par l'épée mourront tous les pécheurs de mon peuple, qui disent « Le mal ne nous atteindra pas et ne viendra pas jusqu'à nous ». Verset 10. La transition des événements prochains à ceux de la fin, versets 7 à 10, nous amène à la bénédiction millénaire, couronnement de la prophétie d'Amos. En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois. Verset 11. La maison, le tabernacle, de David, la royauté de celui auquel Dieu avait assuré ses grâces, sera rétablie comme au jour d'autrefois sous le règne de Salomon, après avoir sombré, en apparence pour toujours, dans la secousse qui avait ébranlé la terre. Plus de division en Israël, il possédera le reste d'Édom. Car Édom ne verra pas, comme d'autres nations, le rétablissement de ses captifs. Jérémie 48, verset 49. Mais Israël possédera aussi toutes les nations sur lesquelles le nom de l'Éternel est réclamé. Verset 12. Tel sera le dernier, le seul véritable royaume universel sous le sceptre du Messie, vrai chef de la maison de David. Jacques, devant le concile de Jérusalem, cite ce passage, altéré par la version des Septante, mais uniquement pour prouver que les nations avaient droit aux bénédictions que les Juifs leur contestaient, puisque le nom du Seigneur, qui faisait toutes ces choses, était réclamé sur elles. Acte 15, verset 16. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence. Et les montagnes ruisselleront de moût, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Versets 13 à 15. Ici, nous entrons à pleine voile dans le port désiré. Le prophète Joël fait le même tableau de la prospérité matérielle sous le règne millénaire. Les aires seront pleines de blé, et les cuves regorgeront de moût et d'huile. Les montagnes ruisselleront de moût, et les collines découleront de lait, et tous les torrents de Juda découleront d'eau. Joël 2, verset 24 et 3, verset 18. La description est, si possible, encore plus brillante ici et plus générale, celle de Joël ne s'appliquant qu'à Juda. Ce qui était promis conditionnellement en Lévitique 26, verset 5, « Le temps du foulage atteindra pour vous la vendange, et la vendange atteindra les semailles », n'avait jamais été réalisé à cause de l'infidélité du peuple. Maintenant, tout a changé. La bénédiction ne dépend plus de l'obéissance de l'homme, mais de la fidélité de Dieu à ses promesses, appelée en 2 Pierre 1, verset 1, la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Cela ne peut jamais manquer. Cette magnifique abondance de la création réjouit nos cœurs à l'avance quand nous pensons que maintenant elle soupire et est en travail tout entière dans l'espérance d'avoir part, elle aussi, à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Mais ce ne sera pas seulement la création, versets 14 et 15. Le peuple lui-même, bien plus cher au cœur de Dieu, sera restauré. La captivité sera rétablie, c'est-à-dire qu'il y sera mis fin pour amener la restauration finale. Alors le peuple rebâtira, habitera, plantera, jouira des fruits. Lui-même sera planté sur sa terre et ne pourra plus jamais en être arraché, dit l'Éternel ton Dieu. Quel contraste entre les premiers chapitres et celui-ci, entre « Ainsi dit l'Éternel » pour le jugement et « Ainsi dit l'Éternel » pour la bénédiction. C'est sur cette dernière que Dieu met pour toujours le cran d'arrêt. Jamais les jugements ne sont pour lui le dernier mot. Seule la gloire éternelle est pleinement digne de lui. Son bonheur, ô peuple de croyants, est de te la donner, de t'en faire jouir et de s'appeler ton Dieu. Verset 15. Conclusion. Nous avons vu dans le livre d'Amos l'exposé des voies habituelles et invariables de Dieu envers son peuple et envers les nations, et nous y avons constaté ce qui les rend nécessaires. Sauf dans ses dernières paroles, Amos ne nous dévoile pas les choses futures, mais les choses prochaines. C'est ce qui rend ce livre si important pour le jour actuel. Les manifestations du péché, mentionnées ici, sont de tous les temps et peuvent être constatées aussi bien chez les croyants que chez les non-croyants. Amos nous en fait connaître la rétribution dans les deux cas. Mais, quelque amer que soit le châtiment, l'homme de foi, sous le poids de jugements actuels, rentre en lui-même, se juge, s'humilie et se repent, et la tribulation porte ses pensées vers la scène des bénédictions futures. Arrivée là, elle se repose dans l'espérance, comme nous le voyons au dernier chapitre de notre prophète, et ne se laisse pas égarer dans le labyrinthe des événements qui agitent les hommes. Le gouvernement de Dieu, qu'il s'agisse de sa maison ou du monde, est toujours saint, juste et invariable. Il est comme la locomotive dont on ne peut changer la direction. L'intervention d'un seul qui tire le signal d'alarme peut arrêter subitement le train dans sa course quand une catastrophe est prévue. Le conducteur serre les freins, il dit, comme en Amos, « ce ne sera pas ». Mais, le résultat s'étant produit, la locomotive reprend son invariable direction. Rien ne la fait dévier de son but final. Mais, grâce à Dieu, si elle écrase tout obstacle sur son passage, elle ne conduit pas aux abîmes, mais au but désiré, les voyageurs qui s'y confient.